La suite de notre rendez-vous spécial deuxième tour des élections législatives sur Radio VFM. Ce vendredi, à deux jours donc de ce deuxième tour, on reçoit les deux candidats qualifiés dans la sixième circonscription du Calvados, celle de Vire-Évrecy. Après la députée sortante Elisabeth Borne tout à l'heure, place désormais au candidat du Rassemblement National. Bonjour Nicolas Calbrix.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes arrivé en tête dimanche dernier avec 36,26% des voix. Vous avez donc devancé l'ex-première ministre Elisabeth Borne, créditée elle de 28,4%. 93%. Le troisième qualifié, Noé Gauchard, s'est désisté. Et on aura donc un duel entre vous et Elisabeth Borne dimanche. L'objectif maintenant, Monsieur Calbrix, c'est évidemment de transformer l'essai, j'ai envie de dire. Vous êtes arrivé en tête, il faut confirmer, même s'il faut, on l'imagine, aller chercher des voix supplémentaires pour pouvoir s'imposer dimanche.
Clairement, les électeurs de la circonscription m'ont placé largement en tête au premier tour. On voit une vraie dynamique, une vraie adhésion à ce que nous proposons, aussi bien au niveau national sur le pouvoir d'achat, en particulier sur la baisse de la TVA sur les carburants, sur l'énergie, pour rendre immédiatement du pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, que nous voulons réduire drastiquement, aussi bien l'immigration légale qu'illégale, mais aussi localement sur le combat numéro un, les déserts médicaux, et l'autre combat très important pour la circonscription, le désenclavement. On voit clairement une vraie adhésion. Maintenant, c'était un premier tour. Une vraie dynamique est là, on le sent partout où est-ce qu'on va, mais rien n'est fait, et je dis aux électeurs de se mobiliser dimanche, les électeurs qui n'ont pas voté, les électeurs qui vont voter Madame Lahal, les électeurs qui ont voté Monsieur Gauchard, je pense que les électeurs de gauche ne pourront pas, en leur âme et conscience, apporter leur voix à Madame 49-3, Madame Réforme des Retraites qui a gouverné si brutalement, et je dis à tous les Français que c'est ce dimanche que le vrai choix se fait, qu'il faut qu'ils restent mobilisés, qui continuent à défendre leurs idées, défendre leur opinion, qui prennent un peu du recul aussi demain pour clairement analyser sur quoi ils vont voter et ne pas tomber dans ce piège du pseudo front républicain qui en fait ne sert qu'à sauver le poste des députés sortants qui ont échoué surtout.
Vous avez 4864 voix d'avance donc avant ce second tour. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'elles ne suffiront pas évidemment pour s'imposer. Il faudra aller en chercher dans les 15300 de Noé Gauchard, dans les 5000 de Linda Lahal également. C'est pour ça aussi que vous parlez aujourd'hui à ses électeurs.
Et également dans les 20, plus de 20 000 qui n'ont pas voté au premier tour, je parle à tous les électeurs. Nous avons un programme de Rassemblement National, un programme d'Union Nationale avec les Républicains d'Éric Ciotti. Nous avons des propositions dans lesquelles tous les Français peuvent se reconnaître. Avec nous, il y aura une abrogation de la réforme des retraites et un nouveau système plus juste, plus progressif qui sera mis en place très rapidement. Il y aura immédiatement à l'été une baisse de la TVA sur les produits énergétiques pour rendre du pouvoir d'achat. Il y aura l'application du programme du Rassemblement National sur la sécurité, l'immigration, ce qui est attendu depuis des années et des années et des années. Il y aura un vrai souci des comptes publics avec un audit qu'on va lancer pour savoir dans quel pays Madame Borne nous laisse dans quel état Madame Borne nous laisse le pays. On a un programme crédible que nous avons travaillé depuis des années pour être prêts. Et encore une fois, je dis à tous les Français, qu'ils soient du centre, de la droite, de la gauche, d'ailleurs, qu'il y a toujours une bonne raison de voter pour le Rassemblement National. Nous avons des mesures qui sont pour toutes les sensibilités, un vrai programme d'union nationale que nous voulons mettre en place.
Nicolas Calbrix, Elisabeth Borne a progressé de 3000 voix entre 2022 et 2024. Dans le même temps, le Rassemblement National a lui progressé de 14 000 voix, c'est plus 130% en deux ans. Comment vous expliquez cette progression ?
On voit qu'il y a une vraie adhésion. Une adhésion.
Comment on explique cette progression ?
Je pense que les électeurs comprennent de plus en plus que, notre programme est crédible, deux, nous avons des bons candidats, et trois, toute l'agitation médiatique sur le No Pass Aran et autres, et les fronts républicains sont en fait un grand cinéma par les états-majors parisiens pour se sauver entre eux. La réalité du terrain, ce n'est absolument pas ça. C'est des candidats du Rassemblement National qui prennent en compte les vraies préoccupations des Français. Et les vraies préoccupations des Français, c'est pas de faire des pseudo-barrages, c'est de vivre mieux demain, de régler concrètement les problèmes des Français sur le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, les déficits publics qui ont explosé avec Madame Borne, qui laisse quasiment un État en faillite. Et je le dis à tous les électeurs de droite, comment aller voter pour Madame Borne qui a amené à plus de 5% le déficit de la France, à plus de 100% du PIB la dette, un échec sur toute la ligne, et ça serait quand même assez incroyable que les électeurs veuillent sauver, que ce soit les électeurs de droite, les électeurs de gauche, les électeurs d'ailleurs, veuillent sauver une personne qui a un bilan si désastreux, un bilan désastreux au niveau local, où elle n'a quasiment rien fait, appuyer quelques petites demandes, surtout son suppléant, mais elle, depuis mars, on ne la voit pas dans la circonscription, et un bilan national absolument catastrophique. Et on voit désormais, même pendant cette campagne, il n'y a plus une seule proposition de l'autre côté. Les seuls qui continuent à faire des propositions, c'est nous. Les seuls qui continuent à défendre un programme, c'est nous. La seule proposition qu'il y a de l'autre côté, c'est de faire barrage. C'est un peu court comme ambition pour quelqu'un qui a été Premier ministre de la France.
Mais Elisabeth Borne dit que toutes ces propositions, elles ne sont pas tenables, que vous avez une baguette magique pour pouvoir proposer des choses comme ça.
Nous verrons si elles ne sont pas tenables. Essayez-nous, vous verrez que nous tiendrons une grande partie de nos propositions, que notre programme peut être mis en place avec le temps des urgences. Après, il est vrai aussi que nous ne réglerons pas les problèmes de la France en 48 heures. Après 40 ans de désastre, nous ne réglerons pas tout en 48 heures. Nous n'avons pas de baguette magique. Par contre, nous avons une méthode de rassemblement, nous avons un sérieux avec différentes personnalités qui nous ont rejoints, avec des candidats crédibles, et nous disons que nous mettrons en place dans le temps des urgences des mesures extrêmement concrètes pour améliorer les choses sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur l'insécurité. Ensuite, viendra le temps d'un vrai budget que l'on ne fera pas passer par 49.3 et pour améliorer la situation de la France. Et vous verrez, si nous gouvernons, vous verrez que les Français approuvent notre programme et que nous arriverons à le mettre en place.
Mais comment gouverner demain si vous n'avez pas de majorité absolue, dans le sens où Jordan Bardella dit qu'il n'ira pas à Matignon s'il n'y a pas justement cette majorité absolue?
C'est justement pour ça qu'il faut que les candidats du Rassemblement National gagnent au second tour, pour qu'il y ait une majorité absolue, pour qu'il y ait un gouvernement stable pour la France. Nous ne sommes pas pour le chaos, contrairement à nos adversaires. Nous voulons que la France ait un gouvernement stable, qu'elle soit entendue dans le monde, qu'elle soit entendue en Europe, qu'elle puisse peser sur la scène internationale. Et pour ça, il faut un gouvernement stable, et le seul qui peut avoir un gouvernement stable, c'est le Rassemblement National. Moi, je ne fais pas de politique fiction. Contrairement à tout ce qu'on peut désormais entendre à Paris ou sur les chaînes nationales, où ils sont déjà en train de se répartir les postes, déjà en train de dire qu'il y aura une grande coalition qui est la trahison de tous les électeurs, où ils se répartissent les postes, ils sont déjà dans l'après-deuxième tour. Moi, j'enjambe pas ce deuxième tour. On est sur le terrain à faire campagne, on défend nos propositions, projet contre projet, même si de l'autre côté, comme j'ai dit, il n'y a plus de projet, donc projet contre incantation, et nous défendons pour aller convaincre tous les électeurs dans toutes les zones, les zones qui ont extrêmement voté pour nous, très bien voté pour nous, mais aussi les zones qui n'ont moins bien voté pour nous. Nous nous faisons du porte-à-porte depuis lundi. Nous allons convaincre tous les électeurs de droite, du centre, de la gauche et les électeurs qui ne se reconnaissent dans aucune sensibilité. Je dis à tous les abstentionnistes, mobilisez-vous. C'est ce dimanche que les choses se jouent.
Je voulais évoquer avec vous un instant, Nicolas Calbrix, un sujet qui a beaucoup fait jaser sur le terrain, même si la fermeture du collège du Val-de-Vire, ce n'est pas une décision prise évidemment par la députée, mais par le conseil départemental du Calvados. Certains ont estimé qu'Elisabeth Borne aurait pu s'opposer de manière plus farouche à la fermeture de cet établissement. Est-ce que, si vous aviez été députée, vous auriez agi autrement, ou est-ce que vous dites aussi finalement c'est une décision qui ne nous appartient pas?
Le premier point, c'est comme vous l'avez dit, elle ne s'est pas opposée, puisque en fait Madame Borne est une technocrate qui appuie les décisions de l'administration.
Mais
et qu'elle elle ne s'oppose jamais. Elle aurait pu faire plus, ça c'est sûr, comme elle aurait pu faire plus pour les salariés de Schneider qui ont subi un plan social à Bourgueil, comme d'autres endroits où elle aurait pu porter plus de dossiers sur la ligne Canfler, sur la modernisation du Paris-Grandville. Il y a plein de sujets où elle aurait pu porter plus, influencer plus, mais on voit que la réalité, c'est des sujets locaux qui ne l'intéressaient pas. Elle est revenue ici que parce que Macron l'a renvoyée. Sinon, elle aurait préféré rester dans un cabinet ministériel. Donc, la réalité, c'est qu'on a une députée sortante qui ne s'intéresse que très peu au terrain, où la circonscription de Vire n'est qu'un marchepied pour son ambition nationale, alors que moi, je veux être un député engagé sur le terrain, travailler avec les acteurs locaux, avec les élus locaux, avec les associations, avec les entreprises, avec tous ceux qui se mobilisent pour faire vivre notre territoire et défendre leurs projets.
D'une manière très pratique, si vous êtes élu dimanche, ça veut dire que vous serez régulièrement dans cette circonscription, qu'on pourra vous rencontrer facilement, Que vous aurez une permanence,
par exemple ? Bien entendu que j'aurai une permanence qui, elle, sera ouverte, puisque c'est bien d'avoir une permanence, mais c'est encore mieux quand elle est ouverte, cette permanence, et qu'on puisse recevoir le public. Je ferai avancer les dossiers. Le rôle du député, c'est aussi ça, d'être un lien sur le territoire. Pas seulement une permanence à Vire, mais aussi de tenir des permanences régulières dans d'autres communes de la circonscription, à Condé, à Thury-Harcourt, à Évrecy, d'aller là où sont les habitants, là où il y a des sujets à régler, et puis surtout de faire avancer les grands dossiers. Alors, un député ne peut pas tout régler. Son principale fonction, c'est de voter la loi à l'Assemblée, mais bien entendu, avec l'écosystème de tous les élus, y compris à la région, avec Hervé Morin, au département, de faire avancer les dossiers prioritaires pour le territoire.
Mais justement, vous pensez que quand on est député Rassemblement National, c'est possible de travailler avec cet environnement politique ? Vous évoquiez le président de région, le président du conseil départemental. On pense demain à la maire de Vire-Normandie, à la présidente de la communauté de communes. Vous vous voyez travailler sereinement demain avec tous ces élus ?
Oh, bien sûr, je vois très bien. Je pense que les élus, une fois que nous sommes élus, les élus travaillent très bien avec nous, puisqu'ils savent que nous sommes des élus engagés, des élus sérieux, qui veulent faire avancer les dossiers dans l'intérêt de la population. Il n'y a aucune raison d'être en guerre ouverte à cause des sensibilités. Moi, ma philosophie sur le sujet, c'est que les élus, une fois qu'ils sont élus, ils sont choisis par la population, ils sont représentants de leur territoire, et il faut travailler avec tout le monde en bonne intelligence, en bonne coopération pour faire avancer les dossiers. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de différence, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des désaccords, mais l'important, c'est que ensuite nous puissions travailler pour faire avancer les dossiers. Hervé Morin, que je connais assez bien, je pense que je n'aurai aucun problème à travailler avec lui après pour faire avancer les dossiers prioritaires de la circonscription.
Hervé Morin, qui est un bon président de région, vous dites.
Hervé Morin fait un bon travail à la région. On a des désaccords sur des choses, mais il fait un bon travail à la région.
C'est aussi parce qu'il n'a pas appelé à soutenir Elisabeth Borne.
Non, je pense qu'Hervé Morin est extrêmement lucide, et je pense que les candidats qu'il a soutenus au premier tour sont extrêmement lucides. Ils se rendent bien compte que déjà, ils ne tombent pas dans le piège du Front Républicain, premièrement, et deuxièmement, ils se rendent bien compte que derrière les grands discours, sur le terrain, c'est pas ça qui fait avancer les dossiers de terrain, que les électeurs, par exemple de Mme Lahal, ne souhaitent pas un Front Républicain, ne souhaitent pas reconduire Mme Borne et lui donner un blanc-seing, alors qu'il y a eu tant de déficits, tant d'impôts, tant de la dette qui a explosé. Je pense qu'il faut un peu de sérieux, si peu fait sur l'immigration, si peu fait sur l'insécurité. Donc je pense que clairement les gens qui ont voté pour Mme Lahal ne se reconnaissent pas dans Mme Borne, et je les invite à se réunir derrière ma candidature ce dimanche.
Nicolas Calbrix, on ne pouvait pas ne pas évoquer avec vous aujourd'hui quelques affaires qui ont secoué aussi le Rassemblement National ces derniers jours dans le Calvados, notamment sur les premières et deuxièmes circonscriptions de notre département, avec une candidate qui s'est affichée portant une casquette nazie, un couvre-chef de la Luftwaffe. Vous êtes totalement désolidarisé de ce qui s'est passé ?
Tout à fait, je suis extrêmement clair sur ces questions-là. Moi, mon histoire politique, je me suis engagé dans le mouvement gaulliste de Nicolas Dupont-Aignan. J'ai commencé à militer à 25 ans auprès des gaullistes. Mon histoire n'est absolument pas celle-là. J'ai rejoint le Rassemblement National en 2020 parce que l'union fait la force et qu'il y a besoin de se réunir pour gagner. Donc moi, je l'ai fait sur une chaîne concurrente mercredi soir. Je condamne tous ces dérapages, tous ces comportements qui sont inacceptables et qui ne représentent pas nos idées. Je suis extrêmement clair, je combats le racisme, je combats l'antisémitisme. J'aimerais bien d'ailleurs que Mme Borne soit aussi claire que moi quand il s'agit de condamner ces éléments-là. Je ne l'ai pas entendu condamner les antifas, ces nouveaux amis qui ont agressé notre candidat à Cherbourg. Je ne l'ai pas entendu condamner ce fichier S qui est candidat à Avignon, qui est le chef de la milice antifa de Lyon. Milice antifa de Lyon, d'ailleurs, qui sont mis en examen ou sous enquête policière parce qu'ils ont tabassé un Français juif de 15 ans jusqu'à lui faire crier « Vive la Palestine ». Donc, moi, je suis extrêmement clair, et nous, Rassemblement National, comme l'a dit Jordan Bardella, nous sommes extrêmement clairs. Quand nous avons des brebis calleuses, nous les excluons, nous faisons le tri dans nos rangs, nous faisons le ménage dans nos rangs. De l'autre côté, j'ai l'impression que Mme Borne est prête à accepter le soutien de n'importe qui aujourd'hui pour se maintenir au pouvoir. pour se maintenir au pouvoir, et j'aimerais qu'elle soit aussi claire que moi sur ces questions-là et sur la condamnation de ses nouveaux amis.
Alors, est-ce que vous êtes aussi clair aussi sur votre suppléant, puisque aujourd'hui c'est à votre tour. Libération évoque justement Gilles Rio, votre suppléant, qui, selon Libération, multiplie sur les réseaux sociaux les remarques sur la double nationalité supposée de membres du gouvernement. Libération évoque des saillies homophobes, une détestation de l'Ukraine, une admiration de Poutine, un culte voué à la Russie. C'est une brebis galeuse, votre suppléant ?
Je l'ai clairement dit, j'ai découvert ces publications en même temps que l'article de Libération. Je lui ai clairement dit de se mettre en retrait de la campagne. Il n'est plus sur la campagne. Clairement, moi, je condamne ces publications. Il les a toutes retirées. Dès que je les ai découvertes, j'ai fait retirer l'intégralité. Il n'est plus sur ma campagne. Je pense que je suis extrêmement clair là-dessus, encore une fois. On peut être jugé sur les brebis galeuses, mais moi, j'aimerais qu'on soit jugé sur comment est-ce qu'on réagit quand on découvre ça. Voilà, puisque c'est une personne qui avait l'air tout à fait normale. Après, j'ai découvert ça. Je fouille pas les réseaux sociaux de tout le monde. Je fais pas les albums photos sur les 20 dernières années. Donc, j'ai découvert ça. J'ai condamné extrêmement fermement. Je lui ai demandé de se mettre en retrait tout de suite de la campagne, d'enlever toutes ses publications, ce qu'il a fait immédiatement. Et maintenant, j'aimerais que Mme Borne fasse de même sur les condamnations de ses nouveaux amis et de tous ses nouveaux amis.
C'est votre suppléant en l'occurrence, c'est pas le sien.
Oui, tout à fait. Comme vous le savez, je suis arrivé après la dissolution assez rapidement. Le mouvement m'a dit que cette personne était bien, c'était un bon militant, un bon colleur d'affiche. Il est devenu mon suppléant assez rapidement. Nous avions 24 heures pour prendre des décisions. Voilà, j'ai découvert la situation, j'ai été extrêmement clair et extrêmement ferme.
Si vous êtes élu dimanche, Gilles Rio ne sera pas plus votre suppléant.
Bah, il sera toujours légalement le suppléant, mais
vous ne le reconnaîtrez plus comme tel.
Il n'aura pas de rôle dans ma députation.
Un dernier mot, Nicolas Calbric, sur vos priorités pour cette circonscription. Demain, on parle souvent, évidemment, de la santé, de l'offre de soins. Vous reconnaissez cette thématique comme une vraie priorité pour le territoire? On sait que certains patients, aujourd'hui, n'ont plus ici de médecin généraliste.
Absolument.
Mais qu'est-ce que peut faire un député pour
Absolument.
Ça?
Absolument. Il y a trois choses. Tout d'abord, nous portons une mesure d'urgence qui est de simplifier drastiquement les démarches pour les professionnels de santé à la retraite qui voudraient reprendre une activité sur le territoire dans les déserts médicaux, premier point. Les exonérations fiscales, aussi bien de cotisations, mais également d'impôts sur le revenu pour les professionnels qui à la retraite qui se remettent à travailler. Donc ça, c'est l'urgence. Après, il y a un travail de long terme à engager pour réduire les déserts médicaux. L'ouverture des maisons de santé, c'est fait, ça commence à être fait avec la région. Il faudra amplifier le mouvement sur le territoire, puisque quand il y a des maisons de santé, c'est beaucoup plus facile pour les professionnels de s'installer. Il y a à repenser aussi la formation des médecins pour qu'ils viennent plus dans les déserts médicaux pour découvrir ces territoires et qu'on ait une chance de les garder après. Et puis, dans tous les cas, le numerus clausus commence à être élargi. Nous irons encore plus dans ce sens-là. Et je pense qu'il faudra arriver sur une forme d'obligation, un an, deux ans, pour les jeunes médecins de venir dans les déserts médicaux. De la même manière...
Les contraindre davantage à venir s'installer dans un premier temps sur ces territoires.
J'aime pas le mot contraindre, mais dans le parcours de formation, il y a aujourd'hui le parcours de formation s'arrête. Et après, il y a une liberté, presque liberté, de s'installer où on veut. Il faudra quelques années, surtout pour ceux qui ont bénéficié de la formation, on ne va pas dire gratuite, mais largement subventionnée par l'État, de donner un an, deux ans, trois ans. Il y a d'autres professions dans lesquelles c'est imposé, dans lesquelles c'est mis en place. Nous devrons aller sur l'offre de santé. Nous sommes dans un schéma aujourd'hui qui n'est pas tenable sur le long terme. Et nous payons aussi les 30 dernières années. Les 30 dernières années où nous n'avons pas assez formé de médecins, où nous n'avons pas assez formé d'infirmières, pas assez formé d'aides-soignants, il faudra revaloriser le traitement des infirmières, des aides-soignants pour que les professionnels de santé viennent aussi s'installer ici. Nous pouvons penser à différents mécanismes d'incitation forte, mais clairement, les déserts médicaux, c'est la priorité numéro 1. De la même manière que le désenclavement de la circonscription est la priorité numéro 2. Voilà. Et puis la priorité numéro 3, ça sera de travailler avec tous les acteurs locaux pour les appuyer dans leurs démarches, les appuyer dans leurs initiatives, et en tant que député, de porter les projets, ouvrir les portes pour que ces projets avancent, pour faire vivre le territoire.
Un dernier mot, Nicolas Calbric, que vous souhaitez adresser en 30 secondes à ces habitants de la 6e circonscription qui vont se rendre aux urnes dimanche.
Je leur dis, mobilisez-vous, prenez le temps samedi pour relire les programmes de tout le monde, même s'il n'y a plus de programme en face de moi, de prendre le temps, déconnectez-vous, ne vous tombez pas dans les pièges du Front républicain, demandez-vous réellement ce qui est le mieux pour la circonscription. Est-ce que vous voulez continuer avec Madame Borne qui a échoué à peu près sur tout, qui n'a pas défendu la circonscription, qui a laissé le pays dans un état aussi bien économique et social, dans un état catastrophique et totalement fracturé, ou est-ce que vous voulez donner une majorité claire, une majorité qui est demandée par les Français, une majorité que seules des combinaisons d'appareils de la politique politicienne pourraient empêcher? Je leur dis de prendre samedi à tête reposée, de réfléchir et de dimanche se mobiliser. Et je vous assure, si vous nous élisez, si vous m'élisez, nous ne vous décevrons pas.
Nicolas Calbrix, candidat du Rassemblement National, vous étiez ce vendredi l'invité de Radio VFM à deux jours maintenant du second tour des élections législatives. On vous remercie infiniment, on vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous dimanche soir, évidemment, sur Radio VFM pour notre émission spéciale second tour des élections législatives. Très belle journée.
Merci à vous, bonne journée.